VOA Afrique, le monde aujourd'hui, à Washington.
Bonsoir le monde aujourd'hui, bienvenue dans cette édition du lundi 24 octobre 2022. Avec vous, Eric Manirakidza, voici d'abord le sommaire. En RDC, manifestation de médecins après une attaque contre des structures de santé. Libération au Cameroun de 9 otages, dont 5 prêtres et une nonne. Le gouvernement éthiopien et les rebelles tigréens sont en Afrique du Sud pour des pourparlers de paix. Le Royaume-Uni a un nouveau Premier ministre, Rishi Sunak, d'origine indienne, est aussi une première dans l'histoire de la couronne britannique. À suivre dans l'actualité économique, le nombre d'emplois dans le secteur privé tunisien a connu une progression d'environ 1,8% en moyenne annuelle. Également dans cette édition, les sports de Yacouba Ouédraogo. Mais d'abord, les affrontements ont continué lundi dans l'est de la RDC entre l'armée et les rebelles du M23 après 4 jours de combat. Un bilan officiel diffusé dimanche soir par l'armée faisait état de 4 civils tués et 40 blessés durant ces combats qui ont repris jeudi dans le territoire de Rutshuru dans la province du Nord Kivu. Après plusieurs semaines d'accalmie dans notre partie magazine, nous aurons le nouveau porte-parole de l'armée congolaise. Toujours en RDC, plusieurs centaines de médecins ont manifesté lundi à Beni et décrété 3 journées d'hôpital sans médecin dans ce territoire de l'est du pays. C'est après une nouvelle attaque rebelle meurtrière ayant visé des structures de santé la semaine dernière. Le point avec Rosine Munezer.
Une religieuse médecin, docteur Sylvie Kavouke, est parmi les 7 personnes tuées lors de cette attaque attribuée aux rebelles ADF contre le centre de santé de la localité de Maboya et un hôpital voisin. Les médecins sont indignés. Nous réclamons la reconstruction des hôpitaux incendiés. Pouvait-on lire sur des banderoles portées par les manifestants? Les médecins demandent la sécurisation de toutes les structures de santé, l'autorisation du port d'armes dans les zones rouges pour le personnel de garde et une prime de risque. Les 3 jours sans médecin devaient permettre d'alerter l'autorité compétente, a déclaré le docteur Godefroy Mbeo, président du syndicat des médecins de Beni. Le Nord Kivu est parmi les provinces de l'est de la RDC en proie aux violences de groupes armés depuis près de 30 ans. Le territoire de Beni est au cœur de la zone d'action du groupe ADF, présenté par le groupe État islamique comme sa branche en Afrique centrale.
En Guinée, l'ancien aide de camp de l'ex-président guinéen Moussa Dadis Camara l'a accusé lundi d'avoir préparé le massacre du 28 septembre 2009 devant le tribunal qui juge les auteurs présumés de cette tuerie. Tous les événements du 28 septembre ont été préparés par le capitaine Dadis Camara. Il n'a qu'à assumer, a dit Toumba Diakité, qui était son aide de camp et le chef de son unité de protection rapprochée et qui est à présent l'un de ses principaux accusateurs. Charles Blé Goudé a annoncé lundi qu'il va rentrer en Côte d'Ivoire le 26 novembre pour participer à la réconciliation après son acquittement l'an dernier par la justice internationale. Cette date a été arrêtée après une rencontre lundi entre une délégation du parti de Charles Blé Goudé et le chef de cabinet du président ivoirien Alassane Ouattara. Surnommé le général de la rue, il était le leader du mouvement des jeunes patriotes. Au Cameroun, 9 otages, dont 5 prêtres catholiques et une nonne, ont été libérés samedi, plus d'un mois après leur enlèvement dans l'Ouest anglophone. L'annonce a été faite ce lundi par l'Église catholique. Le point avec Abdrahman Dia.
J'annonce avec beaucoup de joie la libération des 9 personnes enlevées, s'est réjoui Monseigneur Aloysius Abangalo Fondong, évêque de Mamfé. Rien n'a filtré sur l'identité des ravisseurs ni sur les conditions de leur libération, mais un responsable de l'Église catholique a assuré, sous couvert d'anonymat, qu'aucune rançon n'a été versée malgré les exigences des kidnappeurs. Le 17 septembre, des inconnus armés avaient attaqué puis incendié l'église Saint-Marie à Tiang, dans la région du Sud-Ouest, et enlevé 5 prêtres, une religieuse et 3 fidèles. Leur enlèvement n'a jamais été publiquement revendiqué, mais les meurtres Saccages et rapts sont fréquents dans cette région où des groupes armés indépendantistes visent régulièrement les établissements scolaires, mais aussi les églises catholiques et protestantes. Les régions anglophones du nord-ouest et du sud-ouest sont le théâtre depuis bientôt 6 ans d'un conflit meurtrier entre les groupes armés séparatistes et les forces camerounaises.
Plusieurs ambassades de pays occidentaux, dont celle des États-Unis, ont conseillé lundi à leurs citoyens de limiter leurs déplacements au Nigeria en raison d'une menace accrue d'attaques terroristes, même si les autorités nigérianes ont tenté de rassurer. Des combattants liés au groupe État islamique ont revendiqué plusieurs attaques ces 6 derniers mois. Il n'est pas clair si ces recommandations sont basées sur nouvelles menaces. Les délégations des rebelles tigréens et du gouvernement éthiopien sont en Afrique du Sud pour des pourparlers de paix organisés par l'Union africaine. L'organisation continentale souhaite une solution pacifique à la guerre qui ravage depuis 2 ans le nord de l'Éthiopie. Yacouba Ouedraogo.
Une équipe de négociateurs tigréens est arrivée sur place dimanche soir, d'après Kindeya Gebrehiwot, porte-parole des autorités de cette région dissidente, rappelant les demandes des rebelles de cessation immédiate des hostilités, accès humanitaire sans entrave et retrait des forces érythréennes. La délégation du gouvernement fédéral a quitté Addis Abeba ce matin, selon le service de communication gouvernementale. Le gouvernement affirme avoir continué de reprendre le contrôle du centre urbain majeur au Tigré. De précédentes discussions convoquées début octobre en Afrique du Sud n'ont pas eu lieu à cause de problèmes d'organisation. Rebelles tigréens et armée fédérale appuyées par les forces des régions éthiopiennes voisines et de l'armée de l'Érythrée s'affrontent depuis novembre 2020. Après 5 mois de trêve, les combats ont repris le 24 août. Jeudi, le premier ministre Abiy Ahmed a assuré que la guerre allait se terminer et la paix l'emporter.
Le président de l'Union africaine, Macky Sall, a assuré lundi que l'Afrique n'était pas contre l'Ukraine. Il ne faut pas qu'on ait l'impression que les Africains sont insensibles à la situation de l'Ukraine, a déclaré le chef de l'État sénégalais lors de la 8e édition du forum Conférence de dirigeants et d'experts sur la sécurité en Afrique.
VOA Afrique à Washington, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Rishi Sunak va devenir le prochain Premier ministre britannique. L'ex-ministre des Finances a remporté lundi la course à Downing Street après le renoncement de Boris Johnson et l'échec de son adversaire Penny Mordaunt à se qualifier le point avec Mohamedou Oumph.
Je peux confirmer que nous n'avons reçu qu'une candidature valide, a déclaré le responsable de l'organisation du scrutin, Graham Brady. Rishi Sunak est ainsi élu chef du Parti conservateur. Le parti étant majoritaire à la Chambre des communes, M. Sunak devient Premier ministre. Âgé de 42 ans, ce petit-fils d'immigré d'origine indienne entre dans l'histoire en devenant le premier non blanc à diriger le gouvernement du Royaume-Uni. « Je veux redresser notre économie, unir notre parti et agir pour notre pays », a-t-il déclaré dimanche en annonçant sa candidature sur Twitter. Voulant marquer sa différence par rapport à Boris Johnson, il a promis intégrité, professionnalisme et responsabilité. Rishi Sunak, gardien de l'orthodoxie budgétaire, a séduit une grande partie de son camp et va arriver au pouvoir dans un Royaume-Uni qui traverse une sévère crise économique et sociale avec une inflation à plus de 10% et des grèves qui se multiplient. M. Sunak, qui avait régulièrement dénoncé cet été le plan économique de Liz Truss, apparaît comme une figure rassurante pour les marchés britanniques.
Les juges d'instruction chargés de l'enquête sur les soupçons de financement libyen de la campagne de Nicolas Sarkozy à la présidentielle française de 2007 ont terminé leurs investigations. Les 13 personnes mises en examen dans cette information judiciaire ouverte en 2013, les parties civiles peuvent désormais faire des observations, puis le parquet financier prendra ses réquisitions avant que les juges d'instruction ordonnent ou non un procès. L'Ukraine a accusé lundi la Russie de retarder délibérément plus de 165 navires destinés au transport de céréales en prolongeant les inspections menées conformément à un accord conclu sur ces livraisons cruciales pour de nombreux pays d'Afrique et d'Asie. Israël signera jeudi l'accord sur la délimitation de sa frontière maritime avec le Liban, négocié sous l'égide des États-Unis, a déclaré lundi le premier ministre israélien Yair Lapid. Vous suivez Le Monde aujourd'hui sur VOA Afrique et voafrique.com. Dans votre actualité économique en Afrique et ailleurs, suivez la Minute Éco avec Mohamedou Onfa.
Le président de l'Union africaine, le Sénégalais Macky Sall, a appelé à une réforme de la gouvernance mondiale dont il a déploré les incohérences en ouvrant lundi la 8e édition du Forum international de Dakar. Il a critiqué les insuffisances d'organisations comme le Conseil de sécurité de l'ONU ou le G20 en énumérant les difficultés auxquelles est confrontée l'Afrique, propagation djihadiste, conséquences des crises climatiques et sanitaires et de la guerre en Ukraine, recrudescence des coups d'État. Le président sud-africain Cyril Ramaphosa a promis dimanche soir de mettre en œuvre de nombreuses recommandations du rapport d'une commission d'enquête sur la corruption sous la présidence de son prédécesseur Jacob Zuma. Les quelques 350 recommandations ont été remises la veille au Parlement où elles seront débattues, a annoncé le président lors d'un discours télévisé. En Tunisie, le nombre d'emplois dans le secteur privé a connu une progression d'environ 1,8% en moyenne annuelle entre 2005 et 2021, a révélé dimanche l'Institut national de la statistique. Selon l'Institut, ce nombre a atteint 1,87 million en 2021 contre environ 830 000 emplois en 2005. 37% de ces emplois sont générés par des entreprises totalement exportatrices, d'après les récents chiffres de 2021 dévoilés par l'Institut.
Et sans transition, nous passons à votre page des sports. Yacouba, on jouait ce week-end le second tour aller des éliminatoires de la CAN des moins de 23 ans.
Tout à fait, et le Gabon a pris une option sur la qualification en battant Madagascar chez lui, 1-0. Victoire en déplacement aussi du Ghana, 2-1 du côté du Mozambique, tout comme le Cameroun, 3-2 en Angola. Belle performance de la République démocratique du Congo, vainqueur 4-1 de l'Algérie. Du Soudan 2-0 face au Bénin, un match à vite oublié pour les écureuils qui veulent réagir à domicile selon leur sélectionneur adjoint.
Mais aujourd'hui, on s'est procuré d'occasions de but qu'on n'a pas pu concrétiser. On va continuer à travailler la finition. Si le Soudan a pu nous marquer 2 buts chez lui, pourquoi pas nous, on peut également leur marquer 2 buts. En quoi ?
Patrick Agbeyinou, sélectionneur adjoint des écureuils de moins de 23 ans. Autre succès à domicile, celui du Congo-Brazza 1-0 devant la Tunisie.
Yacouba, cette seconde phase aller a été marquée par des matchs nuls.
En témoigne le duel ouest-africain Burkina Faso-Sénégal disputé à Cotonou, score 0-0. Score identique pour les matchs Eswatini, Égypte et du Niger face à la Côte d'Ivoire. Nul aussi, mais de 2-0 concédés par le Togo devant l'Afrique du Sud. 1-1 entre le Rwanda et le Mali, pareil pour Tanzanie, Nigeria et Sierra Leone, Zambie. Les matchs retour sont prévus en fin de semaine.
Basketball toujours sur le continent avec les qualifications pour la Basketball Africa League dans la zone ouest.
On connaît les deux équipes qualifiées de cette division pour l'élite 16. Les Ivoiriens d'ABC, 3 victoires en 3 matchs, la dernière 89-56 face au Béninois d'Elan Coton. Et le stade malien, grâce à sa victoire 82-55 sur le club hôte l'ASC Niguelec. On connaît aussi les qualifiés de la zone Est, dont les éliminatoires ont eu lieu à Antananarivo. Il s'agit du club Omnisport Police Nationale de Madagascar et les Kenyans de Port Authority.
Ici en NBA, Damien Lillard martyrise des Lakers, déjà en difficulté.
L'arrière de Portland en grande forme en ce début de championnat, après une longue absence, a réussi 41 points lors de la victoire 106-104 de son équipe chez les Lakers, qui souffre après 3 défaites en autant de matchs. LeBron James, 37 ans, a encore été le plus vaillant des Lakers avec 31 points, 8 passes décisives et 8 rebonds. Toujours à Los Angeles, les Clippers se sont aussi inclinés devant leurs fans face à Phoenix 112-95. À San Francisco, les Warriors, champions en titre, ont renoué avec la victoire 2 jours après leur défaite face à Denver aux dépens de Sacramento 130-125. Minnesota s'est pour sa part imposé à Oklahoma City 116-106. Cleveland a battu Washington 117-107. Et enfin, Utah a engrangé un 3e succès du rang 122-121 après prolongation à la Nouvelle-Orléans.
Et c'est tout pour les sports. Merci Yacouba.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
Vous êtes à l'écoute du Monde aujourd'hui sur VOA Afrique. De retour avec vous, Eric Manilakiza. Place au dossier du jour. Au Burkina Faso, le nouveau chef du gouvernement annonce les couleurs sur la question du partenariat militaire avec des puissances occidentales. Il ne sera pas question pour le Burkina Faso de se laisser dominer par un partenaire quelconque. Il répond à notre correspondant Lamine Traoré à Ouagadougou.
Bonjour au maître Apollinaire Kilem de Tambela.
Oui, bonjour à vous.
Vous êtes le premier ministre du Burkina depuis vendredi. Mesurez-vous l'étendue de la tâche qui vous attend?
Parfaitement. Avant même d'être nommé premier ministre, je suis burkinabé. Je vis ici, donc je connais les réalités du pays.
L'épineuse question de la sécurité. Le président est un militaire, il connaît sans doute son rôle. Quelle place pour vous en tant que premier ministre civil?
Non, c'est de constituer un binôme avec le président. Le président est un militaire, il est homme de terrain. Il m'a fait comprendre que lui, ce qui le préoccupe le plus, c'est la sécurisation du territoire et le retour des déplacés dans leur localité d'origine, et qu'il va s'en charger. Donc je pense que le président va surtout se charger du volet sécuritaire et moi du volet civil.
Avez-vous déjà une idée de votre structure gouvernementale dont le nombre est limité à 25 par la charte de la transition?
Et je pense que 25 même c'était beaucoup. Je ne crois pas qu'il y aura 25 ministres. Je crois que nous en aurons un peu moins. Vu les problèmes sécuritaires du pays, il faut faire des économies sur tous les plans.
À quand la formation de ce nouveau gouvernement?
Ça, je ne peux pas vous le dire, parce que vous savez que ça ne dépend pas seulement de nous, mais il y a aussi les nécessités administratives, c'est-à-dire tout cela.
La question de la réconciliation nationale, le MPSR avait engagé certaines actions. Quelle est votre vision sur les actions entreprises par vos prédécesseurs? On a vu l'ancien président Blaise Compaoré qui était au Burkina.
Je me suis déjà prononcé par rapport à l'arrivée de Blaise Compaoré ici au Burkina Faso. Le pardon exige l'humilité de la part de celui qui demande pardon et la sincérité de la part de celui qui demande pardon. Je n'avais pas perçu ces deux éléments dans l'arrivée de Blaise Compaoré ici et dans la proclamation de sa demande de pardon. Parce que ça, c'est une proclamation. Pour moi, la vraie réconciliation au Burkina Faso consiste à réconcilier l'ensemble des Burkinabés avec l'ensemble des Burkinabés. Nous sommes 22 millions. Il faut faire en sorte que chacun des 22 millions-là se sente burkinabé.
On connaît votre penchant, vos idées proches de Thomas Sankara. Est-ce que cela va se sentir dans votre gouvernance?
On ne peut pas développer le Burkina Faso en dehors de la ligne tracée par Thomas Sankara. Ce n'est pas possible. Parce que nous sommes un pays sous-développé, avec peu de moyens. Nous ne pouvons que compter sur nos propres forces si nous voulons nous en sortir.
On termine sur la question du partenariat dans cette lutte contre le terrorisme. Des voix s'élèvent pour réclamer donc un partenariat avec la Russie parce que le partenaire français ne produit pas de résultats, selon elle. Quel est votre avis sur ce sujet?
Mais nous sommes déjà en partenariat avec la Russie. Vous savez qu'il y a des armes que nous achetons de la Russie, de l'Ukraine, etc. Donc le partenariat existe. Mais là, peut-être qu'on pourrait renforcer le partenariat. Mais quoi qu'il en soit, il ne sera pas question pour le Burkina Faso de se laisser dominer par un partenaire quelconque. Ça doit être clair.
Que ce soit la France ou la Russie.
Quel que soit le pays, il ne sera pas question pour le Burkina Faso de se laisser dompter et dominer par un partenaire quelconque. Nous négocierons avec tous les partenaires en ayant en vue l'intérêt d'abord du Burkina Faso. Et c'est ce qui est important pour le Burkina Faso qui sera pris en compte. Si nous estimons qu'il y a un partenaire qui n'est pas loyal avec nous, nous attirerons son attention. Et s'il persiste dans son comportement, nous reverrons nos relations avec ce partenaire. Cela doit être clair et compris par tout le monde. Donc c'est la souveraineté du Burkina Faso qui sera prise en compte en première ligne.
Merci Maître Apollinaire Kilem de Tambela.
Je vous remercie.
Vous êtes bien sur VOA Afrique, 24 heures sur 24 au Burkina Faso, à Ouagadougou sur le 102.4 FM.
Au Tchad, après la répression de manifestations contre le maintien au pouvoir d'Omar Mahamat Idriss Déby Itno, le Premier ministre Saleh Kebzabo a annoncé la suspension de toute activité des partis politiques et organisations de la société civile, dont celle des partis des transformateurs, du Parti socialiste et sans frontières et de Wakit Tama, collectif de partis d'opposition et d'associations de la société civile. Le reportage d'André Kodmajingar.
À mes chers compatriotes, je voudrais vous dire de faire confiance à ce gouvernement d'union nationale qui a le but essentiel de nous ramener le plus rapidement possible à l'ordre constitutionnel.
Le général Mohamed Idriss Déby, dont une partie de la société civile et le parti politique de l'opposition boutent son maintien à la tête de la transition pour une période de 24 mois. Le général 5 étoiles parle de la situation qui serait sous contrôle alors que la chasse aux sorcières continue dans les quartiers sud supposés être le fief de l'opposition. Les militants et sympathisants du parti Les Transformateurs de Dr Succès Massara sont toujours traqués par les forces de l'ordre même à domicile, comme en témoignent ses victimes.
La madame même là, ils ont commencé à le frapper avec la machette. Donc moi j'étais sorti, ils m'ont dit de m'agenouiller et puis ils ont commencé à me frapper avec les bâtons. Vous êtes avec Massara ou soit vous êtes avec l'autre en me tapant là, c'est ce qu'il disait.
Il y a 5 véhicules de militaires comme ça qui sont partis là à la maison. Moi je suis le parent à succès, j'ai des armes chez moi et puis ils ont ramassé les 3 enfants là. Mon fils plus mon cadet et mon neveu là.
Ils ont emporté 3 de mes cousins. Ce matin, on apprend la mort de l'un d'entre eux, torturé jusqu'à mourir.
C'était à partir de 0h et quelques que les hommes en Tunis ont fait incursion dans la concession. Ils ont ramassé tous les hommes de la maison. Ils sont tous au nombre de 16 personnes. C'est même pas là où ils les ont amenés.
Le premier ministre Saleh Kebzabo qualifie ce mouvement d'une insurrection armée tendant à renverser le gouvernement d'Union nationale et suspend les activités des partis politiques de l'opposition, initiateurs de cette manifestation, notamment le parti Les Transformateurs, pour 3 mois. Il fait dissoudre également la coalition Wakitama. Réaction du porte-parole de la dite coalition, Maître Max Loalgar.
Wakitama n'est pas une personne physique. Wakitama n'a pas de personnalité juridique. Wakitama est un état d'esprit que le peuple a embrassé depuis bientôt 2 ans. Vous tuez les corps, eh bien l'esprit Wakitama survivra à travers les âges dans nos cœurs, parce que cet esprit porte l'espérance d'un peuple qui ne réclame rien d'autre que la liberté et la dignité.
Pour le représentant de la FIDH auprès de la CEMAC et président d'honneur de la Ligue tchadienne des droits de l'homme, Dobien Assingar, les autorités de transition ont choisi l'arbitraire à la justice.
Quels sont ces hommes en civil armés qui passent de maison en maison pour enlever des paisibles citoyens vers des destinations inconnues? Et quelles sont ces forces qui assassinent et jettent les corps dans le fleuve? Autant de questions que nous nous posons en tant que défenseurs des droits humains.
Djamena a continué d'enregistrer les victimes. Plusieurs blessés ont succombé dans les hôpitaux. D'autres sont morts dans les lieux de détention extrajudiciaire, ce qui, selon l'opposition, augmente le nombre de personnes tuées à plus de 70. Certaines sources indiquent que les manifestants arrêtés sont en train d'être transférés dans des prisons de Moussoro et de Korotoro dans le nord du pays. Information démentie par le gouvernement. André Koduma Dingar Ndjamena pour VOA Afrique.
Des combats intenses ont repris entre l'armée de la RDC et les rebelles du M23 dans le Rutshuru, un des territoires à la frontière avec le Rwanda, dans le nord Kivu. Depuis hier, les deux camps se battent autour des localités de Tamungenga et Rangira et en réclament le contrôle. Eddy Sango a joint à Goma, dans le nord Kivu, le nouveau porte-parole des forces armées de la RDC, le général-major Sylvain Kenge Bomusa.
Depuis jeudi, l'armée rwandaise, qui vient appuyer l'M23 comme d'habitude, a lancé une offensive contre une opposition. D'abord sur l'axe Rangira-Rwanguba-Tsengero, cet axe qui va vers Bunagana. Et puis, lorsque ils ont essuyé un revers sur cet axe-là, ils ont basculé vers l'axe Tamugenga. Et là-bas, les combats se sont poursuivis hier jusqu'au soir. Et aujourd'hui, depuis le matin, les combats ont continué. Et au moins, je vous parle, nos troupes sont dans Tamugenga. Après le travail de l'artillerie, nos troupes sont en train d'exploiter le travail que l'artillerie a fait dans Tamugenga. Et on continue les opérations.
Donc Tamugenga et Rangira ne sont pas prises par les M23 comme certains médias le disent.
Ils ne peuvent pas prendre Rangira, c'est à Rutshuru. Là, ce sont nos hommes qui disent, ça c'est un axe. Rangira, Wanguba, Tsengero, c'est un axe. Ils voulaient couper cette route-là, mais nos hommes ont réagi en professionnel, ils ont réagi vigoureusement et on les a repoussés et ils ont basculé vers Tamugenga, où ils avaient occupé Tamugenga momentanément depuis hier, et nos hommes sont dans Tamugenga aujourd'hui en train de les poursuivre.
Est-ce que vous avez un bilan? On parle des morts et même des déplacés, des blessés aussi.
Pour hier, puisqu'on n'a pas encore le bilan d'aujourd'hui, hier, vers l'axe Rangira-Rwanguba et Tsengero, il y a eu un mort. plus quelques blessés, 5 blessés à peu près. Mais sur l'axe Tamuginga, il y a 3 civils qui ont été tués et 35 autres blessés, dont des enfants à Nyabikoro, dans la localité Nyabikoro, près de l'hôpital de cette localité-là, l'hôpital de Tamuginga. Voilà le bilan. Jusque-là, provisoire, puisque avec les combats d'aujourd'hui, je ne sais pas s'il y aura d'autres morts. Mais les premières victimes sont des civils qui sont visés par les bombardements aveugles des troupes rwandaises.
Les M23 semblent continuer à lancer un appel pour les dialogues en disant que ce sont les FRDC qui ont brisé les cessez-le-feu.
Non, c'est eux qui ont brisé le cessez-le-feu. Il faut-il dialoguer avec des terroristes? Je ne pense pas. Eux, ils croient qu'on va dialoguer, mais s'ils veulent la force, on va leur imposer la force. Nous, on a donné la chance au dialogue qui a été entre le président rwandais et le président congolais, sous la facilitation du président français. C'est pourquoi on a dû suivre cette accalmie. Mais hier, comme ils ne comprennent que la voie de la violence, la voie des armes, ils ont attaqué. Et nous avons riposté et on est là où on est.
Le général-major Sylvain Kenge Bomoussa, porte-parole des forces armées de la RDC.
Retrouvez-nous sur VOA Afrique 24h sur 24 à Goma en RDC sur 96.2 FM.
Alors que l'indignation suscitée par la mort en Iran d'une jeune femme arrêtée pour avoir enfreint le code vestimentaire est loin de s'estomper, l'attention se tourne vers un autre sujet de controverse impliquant la République islamique. L'engagement présumé de l'Iran dans la guerre de la Russie contre l'Ukraine pourrait être le plus grand coup porté à la relance de l'accord sur le nucléaire iranien. Arash Arabassadi nous en dit plus avec le récit d'Abdurrahman Dia.
Du cœur de Londres à Trafalgar Square, aux rues de Berlin, en passant par Toronto, les manifestations se poursuivent contre le gouvernement iranien et la mort d'une jeune femme en garde à vue. Mahsa Amini, 22 ans, est décédée le mois dernier alors qu'elle était arrêtée par la police des mœurs iraniennes. L'Iran dit qu'elle est décédée d'une crise cardiaque. Sa famille crie au scandale. Depuis, les Iraniens sont sortis en masse pour exiger l'abandon d'une république islamique en désaccord avec une jeunesse majoritairement laïque. Les commerçants se sont mis en grève, tandis que les militants ont appelé à des débrayages dans les écoles. Le guide suprême, l'ayatollah Ali Khamenei, a récemment parlé d'étudiants qui ont grandi en Iran, ont voyagé à l'étranger et ont voulu livrer le pays à ce qu'il appelle l'ennemi. Pendant ce temps, l'Ukraine et les puissances occidentales accusent l'Iran de fournir à la Russie des drones kamikazes et de former les Russes à leur utilisation. Le général Pat Ryder est le porte-parole du Pentagone.
Ce que cela signifie, évidemment, encore une fois, nous continuons à voir l'Iran être complice en termes d'exportation de la terreur, non seulement vers la région du Moyen-Orient, mais maintenant aussi vers l'Ukraine.
L'Iran et la Russie nient les allégations, mais la Grande-Bretagne, la France et l'Allemagne se sont jointes à l'Ukraine pour demander une enquête sur les origines des drones utilisés pour attaquer cette ancienne république soviétique. Les États-Unis sont allés jusqu'à dire qu'il n'y aura pas de nouvel accord sur le nucléaire pour le moment. John Kirby est le porte-parole du Conseil de sécurité nationale de la Maison-Blanche.
Nous sommes très loin d'un retour à l'accord, donc nous ne nous concentrons tout simplement pas là-dessus en ce moment. Ce sur quoi nous nous concentrons, c'est de nous assurer que nous tenons le régime responsable de la façon dont il traite les manifestants pacifiques dans son pays. Et nous nous efforçons de tenir l'Iran et la Russie responsables de ces ventes d'armes.
C'est une déclaration qui contredit les affirmations de la République islamique selon lesquelles les États-Unis sont pressés de conclure un nouvel accord sur le nucléaire dès que possible, tout en accusant les États-Unis d'attiser les flamme des troubles politiques en Iran. Les États-Unis se sont retirés de l'accord en 2018 sous Donald Trump. Mais ce week-end, à Washington, comme dans plusieurs villes occidentales, l'attention n'était pas sur les pourparlers concernant le nucléaire, mais plutôt sur un gouvernement iranien accusé d'être impliqué dans des violations des droits humains, tant dans le pays qu'à l'étranger.
C'est la fin de cette édition. Merci de votre fidélité à VOA Afrique. Un grand merci à l'équipe de production. Lionel Lunanila Gahima a assuré la mise en onde. Eric Manelakis à la présentation. Ainsi va le monde aujourd'hui. Pour plus d'informations, 24h sur 24, voafrique.com, sur vos pages Facebook, YouTube, Twitter et Instagram, bien sûr. Je vous souhaite une excellente soirée à l'écoute de nos programmes.